Bernadette Chamonaz pour le journal Bonjour.
Bonjour, nucléaire, une filière décidément pas très claire. EPR, déchets, les élus exigent des explications. EDF et Framatome à la question hier soir au Parlement. Débat tendu en public, France Inter était présent. Coup de frein sur la prime à la conversion auto, revenu, type de voiture, les conditions seront durcies à partir du 1er août. En Turquie, le régime inaugure un musée à la gloire des anti-putschistes du 15 juillet. Urgence en crise et maintenant on rogne sur les ambulances. Et puis c'est le plus gros festival rock de l'été, les vieilles charrues. Coup d'envoi aujourd'hui à Carhaix.
À 8h moins le quart, deux artistes seront nos invités, le photographe Raymond Debardon et la réalisatrice Claudine Nougaret. Ils sont mari et femme, ils présentent deux expositions à Toulon et Paris.
France Inter.
Le nucléaire, une filière opaque, Bernadette.
Exercice de transparence totalement inédit hier soir au Parlement, organisé par un groupe de sénateurs et députés, convoqués à s'expliquer en public les acteurs de la filière. 2h30 de discussion tendue, soumis à la question par le gendarme du nucléaire et par les députés donc et sénateurs, EDF et Framatome. Ils en ont pris pour leur grade, Sophie Bécherel, notamment sur l'EPR de Flamanville, le fameux réacteur du futur qui accumule les ratés.
Parti pour parler en toute franchise.
Je ne me cacherai pas derrière mon petit doigt.
Xavier Hurtat, directeur exécutif en charge de l'EPR à EDF, déroule l'histoire. Schéma à l'appui, il montre où se situent les soudures incriminées et explique pourquoi rien n'a été fait l'an passé quand le défaut a été détecté.
Pour ces 8 soudures, EDF en juillet 2018 avait proposé de les conserver en l'état, en démontrant que la qualité obtenue pour ces soudures était néanmoins suffisante pour garantir un fonctionnement du réacteur en toute sûreté.
Le patron de l'ASN, Bernard Dorotchouk, lui répond avec sévérité.
Peu à peu, la filière nucléaire française a fait un choix qui consiste plutôt à rentrer dans une logique de justification technique a posteriori, par le calcul, par des études, plutôt que de réaliser la réparation de ces équipements.
L'industriel tente alors de se défendre, c'est parce qu'on n'a pas informé nos sous-traitants des nouvelles règles à appliquer. Mais on vous a toujours tenu informé. Faux, rétorque Bernard Dorotchouk. Framatome et EDF savaient dès 2015, l'ASN n'a été informé qu'en 2017. À la question d'une députée sur le coût des réparations, l'industriel ne répond pas. Yves Marignac de l'agence Wise Paris reste lui aussi sur sa faim.
Ça fait quelques années que j'alerte sur ce que je considère être une crise systémique de la gouvernance du risque nucléaire. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui, malheureusement, me renforce dans cette inquiétude. Il y a une forme de déni de la part des exploitants de la gravité des événements et des actions correctives à prendre en compte.
Cette audition claire et tranchante est à retrouver sur le site du Sénat.
Sophie Bécherel, la nouvelle ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, au travail. Première décision, coup de frein sur la prime à la casse. À partir du 1er août, les conditions vont se durcir. Vous le savez, le dispositif permet de remplacer votre vieille voiture par une nouvelle, moins polluante. Après la crise des gilets jaunes en janvier, la prime a été élargie aux plus modestes. Énorme succès, 250 000 dossiers déposés en 6 mois, plus du double de l'an dernier. Ça devient trop cher pour l'État. Résultat, il décide de limiter les accès en jouant sur deux critères, Laurent Kramer, revenu des ménages et type de voiture achetée.
Débordé par l'afflux de dossiers, avec des effets d'aubaine pour les ménages les plus aisés, le gouvernement exclut du dispositif de la prime à la conversion les véhicules les plus chers, au-delà de 60 000 euros. Cette prime à la casse permettait jusqu'ici, il faut le dire, d'acheter des véhicules luxueux comme les voitures électriques Tesla. Le dispositif est recentré sur les ménages modestes, les ménages au-dessus de 32 000 euros de revenus annuels ne pourront donc plus accéder à cette prime à la conversion. Les Français les plus modestes pourront en revanche toucher jusqu'à 5 000 euros d'aide pour l'achat d'une voiture hybride ou électrique. Côté écologie, le gouvernement abaisse également le plafond d'émissions de CO2 de 122 à 117 grammes par kilomètre. Dernier point, les véhicules classés critère 2 immatriculés avant le 1er septembre 2019 ne seront plus du tout éligibles à la prime à la conversion.
Laurent Kramer.
Réforme des retraites, le voile se lève sur le Big Bang.
C'est ce matin que le haut commissaire à la réforme, Jean-Paul Delevoye, présente ses recommandations. 18 mois qu'il négocie, qu'il peaufine les paramètres de ce qui s'annonce en effet comme la réforme sociale du quinquennat, celle de tous les dangers. 42 régimes de retraite aujourd'hui, plus qu'un seul ensuite, plus de régimes spéciaux ou presque. Système par points, chaque jour travaillé comptabilisé, sans tant tous les cas que souhaite Emmanuel Macron. Il y a encore de longs mois de négociations. négociations. La réforme doit être débattue au Parlement au printemps prochain pour une application en 2025. Les personnes nées avant 1963 ne devraient pas être concernées.
7h35, dans la crise des urgences, rien n'est réglé.
Il y a un mois, la ministre de la Santé débloquait 70 millions d'euros en vain. Les grèves continuent. 200 services touchés toujours. Il y a 5 jours, Agnès Buzyn a même dû être exfiltrée du service des urgences de La Rochelle, poursuivie par des manifestants au cri de « urgence à l'agonie ». Un cercle vicieux s'installe. Des soignants démissionnent et aggravant ainsi la situation. À l'hôpital de Lens, il y a de plus en plus de trous dans le planning. La direction a décidé de restreindre même les ambulances du SAMU 10 jours pendant lesquels elles ne rouleront pas. Cet été, le tableau est noir, dit Jean Létocard, infirmier anesthésiste délégué CGT du service, au micro de Solène Lehen.
Qui pourrait venir nous dépanner dans ces périodes compliquées? Qui accepterait de venir travailler aujourd'hui dans une équipe où normalement il faudrait 24 docteurs et à la fin il en reste que 7? On a une expression entre nous, c'est on dit cette nuit c'est encore été Beyrouth aux urgences, parce que c'est vraiment, parfois, c'est quand on vient prendre notre poste le matin et qu'on voit les brancards avec ces malades qui s'accumulent dans des conditions indignes, quand on a la mamie grabataire, incontinente, un peu démente, qui est à côté du monsieur qui a fait un infarctus, qui est à côté d'une jeune fille qui a pris des cachets de trop parce qu'elle en avait marre de la vie. Enfin bref, tous ces gens-là sont mélangés avec au mieux un paravent. Tout le monde cherche à partir, donc il y a effectivement les médecins qui sont partis, et c'est une partie très visible parce qu'ils sont extrêmement difficiles à remplacer. Mais les autres catégories de personnel souffrent aussi d'une fuite de personnel, et c'est un gâchis pour tout le monde, pour la société en particulier.
Voilà donc pour ce témoignage d'un infirmier des urgences de Lens. Une femme est-elle morte tuée par son compagnon au Rif dans l'Hérault? Un homme est en garde à vue après la découverte des corps d'une femme et de sa fillette. Depuis le début de l'année, 74 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon. Le procès des étudiants de l'Institut catholique de Vendée s'ouvre ce matin à La Roche-sur-Yon. 12 jeunes poursuivis pour injures homophobes, violence, l'agression filmée avait été postée sur les réseaux sociaux et les images seront au centre du procès, Marc Bertrand.
La vidéo est postée le soir même des faits par le centre LGBT de Vendée. On y voit le groupe d'étudiants qui traverse au pas de charge le stand contre l'homophobie. Ils bousculent les militants associatifs, renversent des panneaux, crèvent des ballons et scandent « homopholie, ça suffit ». Une injure à caractère homophobe, estime le procureur. L'un des prévenus a aussi volé un drapeau arc-en-ciel. Il comptait le mettre dans ses toilettes comme un trophée. Deux autres étudiants sont aussi poursuivis pour des violences. Des militants du stand LGBT ont présenté des certificats médicaux attestant de 8 et 10 jours d'interruption totale de travail. Sauf que la vidéo ne montre pas ces violences. Et les policiers, premiers arrivés sur place, n'ont fait état d'aucun blessé. Alors oui, dit l'un des avocats des prévenus, la méthode des étudiants était très discutable, mais selon lui, cette affaire, ce n'est que la manifestation de deux opinions contraires. Scander « homopholie, ça suffit », ça peut blesser, et je le comprends, dit-il, mais ce n'est pas un délit. C'est justement ce que le juge va devoir trancher.
Marc Bertrand pour France Inter. 7h38, la suite du journal, Bernadette Chamonaz. Comment asseoir son pouvoir? Eh bien, avec un musée.
En Turquie, ce n'est pas n'importe quelle date, c'est la date du 15 juillet, anniversaire du putsch manqué contre le président Erdogan, qui a été choisi pour l'ouverture du musée qui se veut à la gloire des résistants anti-putschistes. Il est situé à l'entrée du pont du Bosphore, il avait été occupé par les putschistes et rebaptisé depuis Pont des Martyrs du 15 juillet. Visite de ce musée avec Anne Andloer à Istanbul.
Une voiture grise réduite en boîte de conserve sous le passage d'un tank. C'est la première chose que voit le visiteur en entrant dans le musée du 15 juillet. Et la première chose qu'il entend, c'est cette bande sonore qui le propulse dans la nuit du coup d'état manqué. À l'époque, Semih étudiait à Diyarbakır, dans le sud-est du pays.
J'avais vu des photos de la voiture, mais la voir là, en vrai, ça l'imprime dans ma mémoire. Ça montre aussi, contrairement à ce que certains ont dit, que la nuit du 15 juillet était bien réelle, que ce n'était pas du cinéma.
La majeure partie du musée est dédiée aux Turcs qui sont descendus dans la rue et aux 250 morts que la Turquie considère officiellement comme des martyrs. Leurs objets personnels ont été exposés. Tout est fait pour susciter l'émotion et réveillé la fibre nationaliste. Effet réussi auprès de Selma, une jeune femme qui était sortie de chez elle cette nuit-là.
En voyant ça, je me dis, c'est fou quand même ce qu'on a vécu. Ce genre d'endroit est essentiel pour ne pas oublier et pour tirer les leçons de ce qui s'est passé. Je voudrais que les touristes viennent jusqu'ici pour qu'ils voient la force de la nation turque.
Évidemment, le musée n'oublie pas de faire entendre la voix du président Recep Tayyip Erdogan, lui qui, depuis le 15 juillet 2016, aime à se poser en sauveur face aux ennemis de la Turquie. Un endroit, Istanbul, France Inter.
Hier, on apprenait la mort de Johnny Clegg, le chanteur qui a tant fait pour que l'Afrique du Sud devienne la nation arc-en-ciel. Le Zoulou Blanc, comme on l'appelait, aura marqué le festival de Vieille Charrue, festival qui commence aujourd'hui. C'est le plus gros de l'été en France, en musique. Il commence donc à Carhaix, en Bretagne. Mathieu Culeron.
C'est Johnny Clegg, entre autres, qui a inauguré le nouveau site des Vieilles Charrues en 1998. Un concert mémorable pour l'actuel directeur du plus grand festival associatif de France, Jérôme Tréhoret.
Concert un peu particulier parce qu'il était accompagné du Baga de Quimper.
Et vous, vous étiez ? Vous
étiez première année bénévole aux Vieilles Charrues. Je découvrais le festival, j'étais fan de musique, bien évidemment, fan d'Iggy Pop et... Par un réseau de copains, on dit oh, faut que tu viennes filer un coup de main à Carhaix au Vieille-Charrue. Je ne connaissais pas, j'avoue. Et quand j'ai vu sur le programme qu'il y avait Iggy Pop, Johnny Clegg, MC Solar, enfin il y avait plein d'autres, j'ai dit bah, je viens, puis bah, je suis jamais reparti.
Le programmateur des Vieilles-Charrues, Jean-Jacques Tout, se souvient également du concert de Johnny Clegg, et pour une bonne raison, puisqu'il était aussi son chauffeur personnel le temps du festival.
Visiblement, il connaissait un peu le sujet du bénévolat aux charrues. Il expliquait à ses enfants, voilà, tous ces milliers de personnes là sont là pour que cet événement existe. Et c'était assez, assez touchant parce que c'était lui qui a fait le VRP des charrues, c'était assez rigolo. Pour le coup, c'était un mec qui était vraiment ce qu'il défendait. Un vrai bon mec, quoi.
Le festival des Vieilles Charrues qui démarre aujourd'hui avec Nell Rodgers, Booba ou encore Flavien Berger.
Téléphone-moi encore. Je prends. Mais que je ne répondrai pas.
Ça fait du bien un peu de musique. Hein. Oui. Castelmore, extrait du dernier album de Flavien Berger. Il jouera ce soir à 22h sur la scène des Vieilles Charrues, le festival qui est aussi à retrouver demain dans le petit journal des festivals. Le festival des Vieilles Charrues, c'est jusqu'à dimanche.
Toujours tout en douceur, Bernadette Chamonaz.